nous allons vous parler de... et du docteur Dutheil, d'une diététicienne Isabelle Descamps et de Aziza. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Bonjour à tous.
Je propose que chacun se présente à nos auditeurs. Donc, nous allons commencer par le docteur Dutheil. Bonjour.
Bonjour, donc Philippe Dutheil. Donc, je suis médecin conseil à la MSA Gironde, qui est donc la mutualité sociale agricole, la caisse de sécurité sociale du monde agricole. Donc, je suis en charge de développer un programme d'éducation thérapeutique sur le territoire de la Gironde depuis 2006, à destination des patients atteints d'affections cardiovasculaires.
D'accord. Je propose de passer la parole donc à Isabelle Descamps, qui va se présenter à son tour.
Oui, bonjour. Alors, je suis diététicienne à la Maison du Diabète et de la Nutrition. C'est une association qui existe depuis plus de 10 ans. Et nous réalisons avec ma collègue et infirmière Françoise Després des ateliers autour du diabète, des maladies cardiovasculaires, de la prévention, de la nutrition. Donc, on va faire des ateliers à La Réole, à Coutras aussi, du côté de Blaye, d'Arcachon, Bordeaux. Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu sur tout le territoire.
D'accord, tout ça, on le développera un petit peu plus tard. Je propose à Aziza donc, de se présenter. Donc, c'est une patiente.
Bonjour, je suis Aziza. J'ai été patiente du pôle ETP. J'ai suivi 2 ateliers, 2 programmes, donc la gestion du stress et la préparation à la perte de poids.
D'accord, merci. Et je suis donc Céline Demarchi. J'ai déjà eu l'occasion donc de partager des émissions avec vous en tant que diététicienne. Je suis là aujourd'hui, je représente le dispositif d'appui et de coordination en éducation thérapeutique qui a pour mission d'amener sur le territoire ces ateliers d'éducation. On n'arrête pas de vous parler d'éducation thérapeutique, mais peut-être que personne ne sait ou très peu savent ce que c'est l'éducation thérapeutique. Docteur Dutheil, est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Alors tout à fait, on pourrait commencer par faire peut-être un petit tour d'horizon de ce qu'a été la médecine au XXe siècle, simplement pour élargir un peu le propos. C'est-à-dire que début du XXe siècle, la médecine s'était avant tout attachée à traiter les pathologies aiguës et progressivement, au cours du XXe siècle, avec l'amélioration des techniques médicales, la problématique essentielle a été de traiter les pathologies chroniques. Et à partir de 1998, donc l'OMS avait défini donc l'éducation thérapeutique, qui est donc un processus, comme on va le voir après, qui est à destination des patients pour les accompagner dans la gestion de leur maladie chronique. On pourrait aussi commencer par dire, par exemple, ce que n'est pas l'éducation thérapeutique, parce que le terme n'est quand même pas très bien choisi. L'éducation thérapeutique n'est certainement pas le retour à l'école. On n'aura pas un enseignant, on n'aura pas un tableau noir, on n'aura pas des élèves, des bons points à distribuer. Ça n'est pas ça du tout. L'éducation thérapeutique se veut absolument un processus centré autour du patient et on part de leurs connaissances, on part de leurs acquis, on part de ces éléments-là pour après les faire progresser, pour les amener compétents dans certains domaines. On parle d'auto-soins, on parle d'auto-surveillance, on va utiliser ce genre de termes-là pour essayer de définir ce qu'est l'éducation thérapeutique.
Vous avez dit, je me permets de vous couper, mais vous avez parlé tout à l'heure de maladie chronique, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est une maladie chronique et est-ce que moi, en tant que patient, je sais que je suis atteint de maladie chronique ?
Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Alors, les maladies chroniques, effectivement, ça touche en France en 2016, on estime entre 15 et 20 millions de personnes. Donc, il y a beaucoup de patients atteints en France de maladies chroniques. C'est quoi une maladie chronique ? C'est une maladie qui va vous accompagner dans un parcours de vie long. Ça peut durer des dizaines d'années. On va parler, par exemple, de diabétiques, on va parler d'asthmatiques, on va parler de patients avec des maladies cardiovasculaires, mais également d'insuffisance rénale ou des patients avec des affections psychiatriques lourdes. D'accord. Donc les maladies chroniques, ce sont vraiment des maladies qui accompagnent le patient au cours de sa vie.
D'accord. Qu'est-ce que vous nous diriez de plus sur l'éducation thérapeutique, sur ce que c'est ?
On pourrait dire que l'éducation thérapeutique a également été évaluée. Ce n'est pas un procédé comme ça qui sort de cerveau fumeux. Ça a été évalué en termes biologiques, en termes comportementaux aussi. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment permettre à un patient d'acquérir des compétences pour mieux gérer sa maladie, pour mieux gérer son traitement.
D'accord. Et on va poser la question à notre patiente, à Aziza. Pour vous, l'éducation thérapeutique, si on oublie les mots médicaux, c'est quoi l'éducation thérapeutique si vous deviez la décrire ?
L'éducation thérapeutique, c'est avant tout prendre soin de soi. C'est se préoccuper, en fait, déjà prendre conscience qu'on a un problème et vouloir le avancer et faire changer les choses. Et c'est un accompagnement dans cette direction-là, c'est un appui, c'est surtout un appui, en fait. On se retrouve, pendant des années, on s'est retrouvé tout seul, on s'est retrouvé sans soutien, sans aide. Et là, on se retrouve avec l'appui des personnes, des professionnels de santé, mais aussi du groupe qui est là et qui a un gros soutien. On se retrouve... On se rend compte qu'on n'est pas tout seul et on a moins honte, parce que souvent on a honte de dire qu'on a un problème, tout simplement.
D'accord. Quand vous parlez des professionnels de santé, vous parlez des éducateurs qui vous accompagnent sur les ateliers ?
Voilà, de tous les intervenants qui sont sur les ateliers, que ce soit des éducateurs, que ce soit des profs APA ou des intervenants des diététiciennes, que ce soit le psychologue ou infirmier. Mmh. Ou...
D'accord. Ça, avant de participer à l'éducation thérapeutique, vous aviez cette vision-là ? Vous saviez ce que c'était ?
Ah, du tout, non. Moi, avant de participer à l'éducation thérapeutique, je voyais ça comme encore une énième fois où on allait nous faire la morale. Parce que voilà, souvent, quand on, même dans un parcours de santé normal, souvent on est le médecin nous renvoie que c'est de notre faute si on est dans la situation dans laquelle on est. C'est pas rare.
D'accord.
Malheureusement.
Ça veut dire que quand vous avez participé à ces ateliers, il y a aussi peut-être une déculpabilisation.
Tout à fait, oui.
D'accord. Avec nous, on a une éducatrice qui anime des ateliers. Pour vous, l'éducation thérapeutique, vous la décririez comment ?
Bah, c'est ce que vient de dire Aziza. En fait, c'est vraiment un temps pour soi et aller à la rencontre de l'autre, parce que du coup, on va partager son expérience avec des personnes qui ont la même pathologie. Et du coup, ça va permettre aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul, mais qu'on est unique. Et parce que l'éducateur va s'adapter à chaque personne qui est présente pendant les séances, étant D'accord. donné qu'on les rencontre pendant une heure, qu'on a le temps de faire connaissance, de discuter des difficultés, de leur quotidien, de qu'est-ce qu'ils attendent, de leurs objectifs, de leurs désirs, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers.
D'accord.
Et du coup, voilà, c'est vraiment... un accompagnement pour un temps donné, et puis après on va redécrire toutes ces séances, mais on se retrouve pendant un bilan pour rediscuter de tout ça.
D'accord. Ça veut dire que si on reprend donc cette éducation thérapeutique, et là je vous interroge tous les trois, je ne sais pas lequel va me répondre, mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter au patient de participer ? Qu'est-ce qu'il va avoir au bout ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Déjà, il va mieux connaître sa maladie. Et ça, c'est D'accord. important.
Okay.
Parce que pour arriver à la gérer, à suivre un traitement qui nous est indiqué, c'est quand même pas mal de comprendre son intérêt et de voir quels sont les bénéfices et quels sont les inconvénients. Et du coup, le patient va choisir de se soigner. Enfin, il devient acteur de sa santé.
D'accord. C'est ce que vous avez voulu nous dire au départ, docteur Dutheil. Effectivement, avec tout ce que vous nous avez apporté, la définition, etc. Mais est-ce que vraiment on pourrait dire que l'éducation thérapeutique permet d'être acteur de sa santé ?
Absolument, puisqu'on a de nombreuses études maintenant, puisqu'on a quand même un recul d'une dizaine d'années, qui nous montrent qu'elle réduit cette éducation thérapeutique, les hospitalisations par exemple. Elle diminue la fréquence des crises. Elle va également améliorer, on parle de qualité de vie, elle va améliorer la vie au quotidien des patients. Ce sont des patients qui vont savoir mieux gérer les problèmes qui peuvent survenir en termes de traitement ou en cas de survenue de crise. C'est des patients qui seront donc plus compétents, c'est le terme qu'on aime bien utiliser, la compétence, pour pouvoir gérer ces imprévus de leur maladie.
D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Ziza ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a pas... C'est vrai que... On part d'un point de départ où on a une prise de conscience, à la base, je pense, qu'elle soit personnelle ou qu'elle ait été guidée. Mais la finalité, c'est ça, c'est vraiment d'être acteur de sa santé et de réussir à se prendre en charge soi-même au maximum, quoi.
D'accord. On dit aussi que l'éducation thérapeutique, ça permet de mieux communiquer avec son médecin, excusez-moi. Avec son médecin, avec les soignants. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir mieux communiquer avec les personnes autour de vous, que ce soit des soignants ou que ce soit même votre entourage, depuis que vous avez participé à ces ateliers ?
Tout à fait, oui. Comme je disais tout à l'heure, souvent on a honte. Souvent on nous a renvoyé tout au long de son parcours de santé, on nous a renvoyé des choses qui allait dans ce sens-là. Donc on a honte, on se cache, et on n'ose pas en parler. Et justement, ça permet de se libérer et d'en parler plus librement et même d'orienter certaines personnes vers ces ateliers parce qu'on sait que ça pourrait leur être bénéfique. Et de pouvoir vivre justement avec cette ouverture sur sa maladie, ça permet aussi de se libérer soi-même et de continuer cette avancée dans ce sens-là, en fait, vers le plus d'autonomie et une meilleure gestion de la maladie.
D'accord. Quand vous dites plus d'autonomie, ça veut dire qu'en participant à ces ateliers, vous avez pu donc identifier certaines problématiques et vous avez pu mettre en place des changements ou mettre en place des stratégies pour pouvoir améliorer votre qualité de vie ?
Tout à fait, oui.
D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à, ou définir, si on devait définir en quelques mots l'éducation thérapeutique, avec des mots qui soient à la fois des mots de soignant, mais aussi de soigné, comment on pourrait le définir ?
On pourrait dire que c'est une démarche qui intègre donc des activités d'éducation, d'information et d'apprentissage pour que chacun atteint une maladie chronique puisse mieux l'appréhender, mieux la gérer.
D'accord. Pour vous ?
Oui, c'est ça. Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer au quotidien et améliorer sa qualité de vie.
D'accord. Et pour vous ?
Moi, ce serait un booster, un starter, en fait. C'est vraiment une marche qui va nous permettre par la suite de pouvoir continuer à monter les autres marches. Ça nous pousse, en fait. Ça nous booste dès le départ, en fait. Là où, quand on a ce petit début de motivation et qu'on ne sait pas trop où aller, en fait, ça nous permet vraiment de nous pousser, de nous faire aller, de nous pousser vers l'avant et de nous orienter là où il est le mieux pour nous d'aller, en fait.
D'accord. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve ensuite.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose. Une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond.
Ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars.
Nous nous retrouvons donc maintenant pour, après vous avoir expliqué ce qu'était l'éducation thérapeutique, peut-être décrire un petit peu le cœur de l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est un programme? Comment le patient est pris en charge? Par quoi ça commence? Comment ça se déroule? Aziza, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu comment a été votre parcours dans l'éducation thérapeutique?
Alors, comment ça se déroule? Tout d'abord, il y a une demande qui doit être effectuée. Alors, soit directement par le médecin traitant, ou souvent c'est le patient qui fait la démarche auprès de son médecin traitant pour qu'il fasse une demande pour intégrer ses ateliers. Ensuite, on a un entretien, on va dire, de motivation avec la psychologue.
D'accord. Vous avez fait un parcours où vous aviez un diagnostic éducatif et aussi un entretien de motivation.
Voilà, oui, ouais. Tout à fait. Et en fonction de l'entretien, après, on est intégré sur les ateliers qui sont décomposés en plusieurs thématiques. Pour la préparation à la perte de poids, les thématiques principales, c'était la diététique, l'activité physique. Il y avait une grosse partie aussi de la gestion du stress. Et pour la thématique gestion du stress, on retrouvait un peu ce qui avait été fait en amont, mais c'était vraiment basé sur la gestion du stress. Donc il y avait beaucoup de...
Des ateliers avec une psychologue.
Voilà, avec une psychologue, il y a eu aussi de l'activité physique.
De la sophrologie.
Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment les grosses thématiques. Et après, il y a d'autres interventions et c'est pas figé, c'est pas quelque chose de figé. On peut très bien arriver pour un atelier avec une thématique et que finalement la discussion nous emmène vers autre chose. Voilà, il n'y a rien de figé en fait.
D'accord, ça veut dire qu'on part vraiment du patient et on essaie d'arriver à la fin de la séance en ayant apporté des réponses au patient.
Voilà, tout à fait, oui.
D'accord. Au départ, vous avez parlé de alors c'est, j'ai dit le mot diagnostic éducatif. Donc ça, c'est quoi pour vous? Quand je vous dis diagnostic éducatif, vous en avez eu un. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet entretien? C'était en individuel?
C'était en entretien en individuel, oui. Je pense que c'est une des... Enfin, pour moi, ça a été la partie la plus difficile parce que c'est en quelques minutes, en très peu de temps, en fait, c'est reparler de tout son parcours, de tout... C'est 20 ou 30 années de vie qu'il faut revoir en très peu de temps avec tout ce qui a été aussi difficile. Et ça fait remonter beaucoup de choses et... Ça renvoie vraiment des choses difficiles, mais je pense que c'est nécessaire et c'est la base. C'est cette prise de conscience et ça permet aussi de dédramatiser la chose et de se rendre compte aussi que on n'est pas finalement on n'est pas responsable de notre état. En fait, c'est tout un parcours de vie qui nous a amené là. Et...
Alors, dans ce diagnostic éducatif, vous dites quelques minutes, en général, ça dure une heure. Et effectivement, on essaie de savoir, l'éducateur va essayer de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, votre parcours, pour pouvoir effectivement mieux répondre ensuite tout au long des ateliers. Si je pose la question à Madame Descamps, vous faites des diagnostics éducatifs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire le cœur d'un diagnostic éducatif? Qu'est-ce qui se passe dans ce diagnostic?
Mais alors c'est vraiment, on va faire connaissance, que ce soit l'éducateur ou que ce soit la personne qui se présente, et on va essayer de comprendre qui elle est, qu'est-ce qu'elle sait de sa pathologie, comment elle le ressent, son ressenti, comment ses émotions ressortent pendant cet entretien. On va également essayer de comprendre ce qu'elle fait dans son quotidien, ce qu'elle attend. Et quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place pour que, au fur et à mesure, petit à petit, ce que disait Aziza tout à l'heure, c'était vraiment de monter une marche, de faire une action, une seconde action, tranquillement, on a le temps. Et qu'est-ce qui pourrait faire que, du coup, la personne se sente mieux, qu'elle soit mieux avec sa maladie, qu'elle soit mieux avec son entourage et qu'elle soit mieux avec elle-même.
D'accord, merci. Aziza, vous avez dit j'ai bénéficié de différents ateliers. Donc, il y a eu des ateliers sur le vécu de la maladie animés par un infirmier psy. Vous avez eu des ateliers donc animés par des psys, mais parce que un travail sur l'image de soi, sur des thématiques qui font écho peut-être à un parcours de vie. Vous avez eu de l'activité physique adaptée, vous avez eu de la sophrologie, vous avez eu de la diététique. qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces ateliers? Si on prend un atelier d'activité physique adaptée, est-ce que c'est vraiment quelque chose de difficile? Comment ça se déroule et comment vous l'avez vécu?
Non, alors justement, en fait, on arrive souvent avec des a priori. Donc, on entend activité physique, on n'entend pas l'adapté.
Donc là, on veut partir.
Voilà.
D'accord.
Et finalement, on se rend compte que vraiment que c'est le adapté, en fait, qui est important. Et l'éducateur qui est là, en fait, s'adapte vraiment à chaque personne, aux difficultés que chaque personne peut avoir, s'adapte à ses capacités physiques. C'est vraiment adapté. Et il n'y a rien de, compliqué en soi, quoi.
D'accord.
Et c'est même, j'ai vu certains ateliers, en fait, d'activités physiques adaptées où c'est même l'éducateur qui vient nous freiner. Parce que avec le temps, il connaît un peu nos limites et il sait que là, si on pousse plus loin, on va dépasser nos limites et c'est pas le but recherché, c'est pas de se faire mal, au contraire.
D'accord. Ça veut dire que ces ateliers d'activité physique, on arrive, on est en tenue et de suite on rentre dans le vif du sujet, on fait de l'activité physique ou est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée justement sur qu'est-ce que c'est l'activité physique, les limites que l'on peut avoir, etc.
Non, il y a toute une réflexion qui est mener déjà, c'est la toute première fois, c'est qu'est-ce que l'activité physique, redéfinir qu'est-ce que l'activité physique, parce que souvent on voit par là le sport et non, en fait l'activité physique, ça commence à partir du moment où on bouge, tout simplement c'est mettre son corps en mouvement. Donc voilà, on redéfinit vraiment ce qu'est l'activité physique et on se rend compte que on en fait, tout le monde en fait tous les jours, même si les gens qui font pas de sport. Et c'est aussi une grosse réflexion sur comment l'intégrer dans son quotidien, en fait.
D'accord. Ça veut dire que dans ces ateliers, il y a plusieurs parties, si je comprends bien. Il y a la partie où on va essayer de poser ensemble nos représentations sur qu'est-ce que c'est l'activité physique. Moi, je crois que j'en fais pas, mais tout d'un coup, je m'aperçois que j'en fais. Et puis, derrière, comment on peut le mettre en place, quelle place ça peut trouver dans ma vie au quotidien, plus après une pratique.
Voilà, oui.
D'accord. Et les autres ateliers, si on parle des ateliers diététiques ou si on parle des ateliers avec la psycho, est-ce que c'est à peu près le même déroulé ou est-ce que c'est très différent?
Tous les ateliers sont montés à peu près sur la même forme, en fait. Il y a vraiment, ça part vraiment toujours du patient et de là où il en est et vers où il veut aller et d'essayer de trouver le chemin le plus simple pour lui pour aller vers son objectif, en fait.
D'accord. Ça veut dire que dans ce groupe, vous êtes maximum 10, chacun peut trouver sa place, chacun peut s'exprimer. Comment ça se passe au niveau du groupe?
Ah oui, tout à fait. Il y a personne qui est mis de côté. Tout le monde peut s'exprimer à n'importe quel moment et tout le monde est écouté aussi.
D'accord.
C'est rien de s'exprimer, c'est d'être entendu et écouté aussi qui est important. Et voilà. Tous les points de vue sont écoutés, entendus et les intervenants essayent vraiment de répondre au cas par cas et quelque chose qui soit adapté à la demande et aux attentes.
D'accord. Au départ, vous avez parlé de, pour participer à un programme, c'est soit le médecin, soit nous qui allons vers le médecin. Si je vais vers le médecin, comment j'ai fait pour aller vers le médecin et pour demander de l'OTP?
Alors, soit on a vu les affiches, soit quelqu'un nous en a parlé.
D'accord.
Et souvent, on ne sait pas trop ce que c'est, finalement.
D'accord.
Parce que c'est pas non plus très détaillé, en fait, les informations qu'on a. Donc c'est un peu le coup de poker, je dirais. Je dirais que on a une envie d'avancer, on a une envie de faire changer les choses. Et on a vu cette affiche où on nous a parlé de ça. On se dit peut-être que ça pourrait me convenir et on fait la démarche d'aller rencontrer son médecin traitant et de prendre des informations supplémentaires s'il en a. Et s'il n'en a pas, on demande à intégrer directement l'atelier et on voit sur place en fait si ça correspond à ce qu'on attendait ou pas, quoi.
D'accord. Ça veut dire que peut-être il faudrait qu'on ait une autre communication sur l'éducation thérapeutique?
Je pense que oui.
D'accord. Quel a été le lien? Est-ce que vous avez fait du lien avec votre médecin sur les ateliers avec qui auxquels vous avez participé?
Non, il n'y a aucun lien qui a été fait.
D'accord. Avec nous donc le docteur Dutheil. J'aimerais que vous nous parliez de la place du médecin dans l'éducation thérapeutique. Quel rôle il a et vraiment quelle place il a?
Alors c'est vrai que c'est important. C'est une place que nous on voudrait encore plus importante puisque l'éducation thérapeutique est absolument dans le parcours de soins. elle n'est pas à côté, elle est dans le parcours de soins. Donc dans l'idéal, on voudrait effectivement que les patients qui sont susceptibles d'en bénéficier puissent être intégrés à ces programmes par leur médecin traitant, leur cardiologue, leur diabétologue. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, par peut-être méconnaissance. On a toujours un petit peu de réticence de la part des praticiens pour intégrer des patients dans ces programmes, et c'est un petit peu dommage. Ce que l'on souhaite, nous, effectivement, c'est de créer des liens tout au long de ces ateliers avec le praticien. Et la plupart du temps, enfin, en tout cas, nous, à l'AMSA, on le met en œuvre, on envoie des courriers aux médecins traitants pour leur signaler où est-ce qu'on sent leur patient dans le programme. Il y a également des dossiers qui sont remis aux patients à destination du médecin traitant. Et on invite le patient à se rapprocher à l'issue du programme de son médecin pour que le suivi soit effectué ensuite. D'accord. Ça nous paraît très important, effectivement, de bien intégrer l'éducation thérapeutique aux soins.
D'accord. Alors, là, je vais parler en tant, effectivement, que dispositif d'appui et de coordination. C'est vrai que l'éducation thérapeutique, c'est je dirais, un soin dans le parcours de santé du patient. C'est un moment ponctuel, comme je vais chez le kiné ou je vais chez le podologue. C'est une prise en charge et c'est une prescription que l'on pourrait faire. Et effectivement, je tiens à rappeler que le médecin, il reste le pivot du parcours de soins et que tout comme quand je vais aller passer une radio, le médecin a prescrit effectivement cette radio, je suis libre d'y aller ou pas, mais il y a de grandes chances que j'y aille. C'est un petit peu pareil avec l'éducation thérapeutique. Pour autant, après la radio, après un bilan sanguin, je vais voir mon médecin. C'est un petit peu pareil avec l'éducation thérapeutique. Je termine mes ateliers, je fais le lien avec le médecin qui, lui, va pouvoir voir l'évolution que le patient a eue, va pouvoir continuer cette démarche d'éducation thérapeutique et je dirais cette continuer dans cette posture. Et là, je me retourne vers Madame Descamps. On parle de posture, on parle de posture en éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est la posture de l'éducateur ? Comment on est face au patient ? Est-ce que je suis, vous qui êtes diététicienne, je suis là en tant que diététicienne ou est-ce que j'ai une autre posture et comment ça se passe ?
Non, effectivement, il y a une posture d'éducation et surtout d'écoute. En fait, c'est ça, c'est... Dans le travail de diététicienne, à l'ancienne, je dirais, avant on faisait, il y avait des rations. Alors ce qu'on appelle une ration, c'était petit déjeuner, dîner, éventuellement goûter. Tout le monde devait manger à peu près pareil, quoi. C'était vraiment un gros socle. Et aujourd'hui, dans l'éducation thérapeutique, on est vraiment dans « expliquez-moi comment ça se passe pour vous aujourd'hui, expliquez-moi vers quoi vous avez envie de tendre, et on va essayer de trouver ensemble, alors ensemble c'est avec l'éducateur, mais c'est aussi avec le groupe, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place petit à petit pour y arriver. Et du coup, on est tout le temps dans... En fait, la posture d'éducateur, elle va être là aussi pour essayer d'entendre le moment. On se dit, ah tiens, il peut y avoir un déclic là. Et de rebondir dessus, de reformuler, de dire à la personne, est-ce que vous pourriez, d'après ce que vous venez de me dire, essayer de mettre ça en place ? Comment vous pourriez y arriver ? Réfléchir avec lui ou avec elle, à ce moment-là, quels sont les moyens qui pourraient, ou les outils qu'il pourrait utiliser pour y arriver ? Parce qu'une fois qu'on est sorti de la séance, on ne va pas forcément y réfléchir. Donc on profite de ce moment-là. Et voilà, en fait, c'est un accompagnement, voilà, une posture d'accompagnant.
D'accord, mais on n'est pas du tout sur le côté spécificité, je suis diététicienne et je fais de la diététique ou je suis psychologue. Est-ce que vous avez senti que quand, Aziza, quand vous étiez sur des ateliers, c'était le côté diététique ou psycho qui ressortait ou bien on était vraiment sur une prise en charge avec la thématique du jour ?
Non, il n'y a pas, de choses vraiment très définies, très cadrées, diététiques ou psycho. C'est vraiment l'atelier du jour et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment adapté. Donc on peut même complètement sortir du cadre à certains moments pour revenir après à d'autres moments.
Justement, c'est vrai que c'est une approche globale de la personne. Oui. En fait, c'est l'intérêt, c'est qu'on co-anime. Mm-hmm. On n'est pas la diététicienne qui va animer l'atelier alimentation, il y a l'infirmière aussi. Et du coup, on va parler pendant l'atelier d'alimentation, d'activité physique, de stress. On prend vraiment la personne pour ce qu'elle est complètement.
Dans sa globalité.
On ne met pas dans des cadres.
D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je crois que Madame Descamps a très bien décrit ce qu'on appelle la posture éducative. C'est le patient qui est au centre de l'atelier Et le soignant éducateur a une profession bien particulière qui a été formée à l'éducation thérapeutique, qui se place un peu en périphérie, qui va aller animer le groupe, mais toujours en partant de la place du patient et des patients. Ce n'est certainement pas le soignant éducateur qui va venir plaquer des connaissances brutales comme ça sur le groupe. C'est vraiment l'inverse. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'éducation thérapeutique se fait au bénéfice des patients et en partant de leur niveau à eux.
Tout à fait. Et je reviens vers vous, Aziza, parce que ce que vous venez de dire, docteur Dutheil, c'est là où je veux en venir. Est-ce que vous avez eu l'impression que quand vous rentriez dans un atelier, à la fin, vous alliez être évalué et il fallait absolument que je sache des choses, ou au contraire, on a mis en valeur ce que je savais et tout d'un coup, je sors et je me sens bien parce que bah, je valide des connaissances, j'en ai appris d'autres. Comment ça se passe vraiment? Est-ce que je me sens en examen?
Non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est au contraire... quand on arrive en atelier, la plupart du temps, on vient avec plaisir. On sait qu'on va passer un bon moment. Voilà, qu'on va apprendre des choses, qu'on va pouvoir en apprendre aux autres aussi. Il y a une dynamique de groupe qui est importante et on apprend de tout le monde. Il n'y a pas que les intervenants, on apprend énormément du groupe. Il y a un gros échange aussi à ce niveau-là. Et ça a toujours été un moment de plaisir, quoi.
D'accord.
Même si en fonction des thématiques, il y a des fois, on sait que ça va être un peu plus difficile, mais...
Alors, difficile parce que parfois, on va aborder des points qui nous touchent vraiment, des points dans l'émotion, etc.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. À la fin de ces ateliers, parfois, il y a des petits questionnaires qui vont permettre d'évaluer la progression, mais pas d'évaluer, je dirais, le patient, d'évaluer au niveau des acquis. Je pense que peut-être que vous pouvez nous en parler, docteur Dutheil, sur vos programmes. On a à la fin des petites échelles, etc., qui permettent de voir, alors, qui permettent au patient de voir sa progression.
Oui, c'est très important. Toute l'évaluation, il n'y a pas de programme d'éducation thérapeutique sans évaluation. Elle est même, on va dire, triple pour le patient, pour le programme et pour les soignants éducateurs. L'évaluation pour les patients, elle est bien sûr fondamentale, puisqu'on essaye de leur faire remplir effectivement des premières grilles en entrée de programme pour qu'ils puissent noter où est-ce qu'ils en étaient sur certains éléments en début de programme et ainsi voir leur progression en leur refaisant faire la même évaluation en fin de programme, ce qui leur permet bien de mesurer le progrès accompli.
D'accord. Vous avez bénéficié de fiches de ce type-là qui vous permettaient de voir où est-ce que j'étais au départ, où est-ce que je suis à la fin ?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Vous avez trouvé ça comment ? Vous êtes senti évalué ou pas ?
Non, du tout. Au contraire, c'est même surprenant, en fait, de se rendre compte qu'en si peu de temps, on a acquis tellement de choses, en fait, et de se rendre compte que non seulement c'est une connaissance qui est acquise, mais c'est... C'est une connaissance qui va nous permettre de pouvoir mettre des choses en place derrière quand l'atelier est fini. Et c'est le plus important, en fait. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment une préparation. Et ça nous prépare pour après. Et c'est le plus important, c'est vraiment d'avoir ces acquis-là.
D'accord. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport au programme, à son contenu ? Donc, je vous propose de faire une petite pause musicale.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Avec vous, ce qu'était l'éducation thérapeutique. Nous avons essayé de vous décrire qu'est-ce qu'il y avait dans un programme. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de présenter quels sont les programmes sur le territoire. Alors, sur le territoire d'une part Sud-Gironde et après peut-être un petit peu plus loin, puisque cette radio, elle diffuse plus loin que le Sud-Gironde, si j'ai bien compris. Donc, chacun pourra dire aussi sur Bordeaux ce que l'on va retrouver. En termes de territoire Sud-Gironde, nous avons actuellement donc, des programmes, le programme de la MSA qui est le programme des maladies cardiovasculaires. Nous accueillons aussi le programme de la maison du diabète et de la nutrition. Nous accueillons aussi des programmes de proxy santé avec la préparation à la perte de poids, l'addiction. Ce que je propose, c'est que peut-être, Madame Descamps, vous nous présentiez une journée de vos programmes.
Oui, bien sûr. Alors, je peux vous présenter la dernière journée qui est un petit peu atypique et plutôt conviviale. Donc, ça fait suite à ce fameux diagnostic éducatif qui a duré une heure. Ensuite, on a trois demi-journées d'ateliers, de séances en collectif. Et la dernière journée, on se retrouve. Et donc, on commence. Ça va être la journée autour de la glycémie. Donc, c'est le taux de sucre dans le sang, autour du diabète, évidemment. Donc, là, vous avez l'infirmière qui va... on demande aux personnes de ramener tous les lecteurs de glycémie et on essaye de comprendre son fonctionnement, qu'est-ce qui se passe quand il est cassé, comment faire pour bien prendre sa glycémie, parce qu'on ne le fait pas toujours comme il faut. Ensuite, on fait à manger tous ensemble, on partage le repas, on va prendre sa glycémie avant et 2 heures après le début du repas. Pendant le café, on va faire un atelier autour de la lecture des étiquettes. Et ensuite, on va aller marcher tous ensemble, tranquillement, pendant 30 minutes. Alors, ça peut être 15 minutes en fonction des personnes. Et on reprend la glycémie après cette activité. Et on se rend compte que, du coup, tout le monde est différent. Il n'y a pas un diabète, il y a plusieurs diabètes. Et ça permet, en fait, de discuter à la fin de la journée, de se dire, bah voilà, moi, par rapport à l'alimentation, ma glycémie a monté de temps. Alors, peut-être qu'on va se dire, super, mon pancréas fonctionne encore bien. Ça veut dire que c'est quand même une bonne chose de me prendre en main pour que mon diabète continue à être bien équilibré longtemps. Certains vont se rendre compte que malgré une alimentation équilibrée, les médicaments et l'activité physique, ça fonctionne un peu moins bien. Donc ça peut aider certaines personnes à passer à l'insuline. et d'autres que tout fonctionne bien. Voilà, donc c'est vraiment, on discute ensemble, c'est vraiment la clôture du programme diabète.
Qui dure toute la journée avec ce repas donc partagé. D'accord. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu vos ateliers, docteur Dutheil ?
Oui, donc on commence, comme précisé précédemment, par un diagnostic éducatif, hein, donc il y a un temps individuel qui s'étale sur à peu près une heure. Une petite quinzaine de jours après, commence le premier atelier, donc qui est un atelier collectif. On essaie de regrouper entre 6 et 8 patients. On invite assez régulièrement les conjoints, hein, on n'hésite pas à proposer aux conjoints de se joindre à nous. Donc ce premier atelier, il est divisé en deux modules. Un module de présentation et vécu de la maladie, qui est toujours très apprécié en début de programme pour faire connaissance. Hein. Les patients s'expriment les uns après les autres et peuvent vraiment évoquer leur pathologie et se rendre compte effectivement qu'ils ne sont pas seuls. C'est très important, ça crée des liens. Le deuxième module de ce premier atelier, qui dure donc 3 heures au total, est consacré à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc c'est un gros mot, entre guillemets gros mot, médical, mais pour dire un petit peu quels sont les risques des maladies cardiovasculaires en termes de tabac, en termes de cholestérol, de sédentarité, etc. On se revoit 15 jours plus tard pour le deuxième atelier, qui dure là aussi 3 heures, qui est divisé là aussi en deux parties. Une première partie sur la nutrition, avec beaucoup de jeux, on a des tableaux, on leur fait passer des sets de table. Enfin, c'est très ludique, hein. On essaye de faire des ateliers vivants et ludiques. Donc, axé sur la nutrition. Et le deuxième module de ce deuxième atelier est basé sur l'activité physique. Donc, comme dit précédemment, là aussi, on a une marche de 30 minutes. Généralement, 30 minutes, on peut faire un petit peu moins en fonction des patients. Pour essayer de leur montrer effectivement quelles sont leurs capacités, parce que souvent ils les minorent. Ils n'ont pas l'impression qu'ils vont pouvoir faire cette marche, qui est une marche à un rythme qui n'est pas lent, mais qui est presque un peu soutenu. Enfin. Et ils ont la possibilité effectivement de faire cette marche-là, cette vitesse. Voilà, ça clôture donc le deuxième atelier. 15 jours plus tard, troisième atelier, là aussi divisé en deux. Une première partie où on essaye vraiment de leur montrer du doigt les compétences qu'ils pourraient acquérir. En termes, par exemple, d'auto-mesure tensionnelle ou de qu'est-ce que je fais si j'ai une douleur thoracique. Hein, beaucoup de patients ne le savent pas, hein, donc on appelle le 15, je signale. C'est des choses très simples, ce n'est pas compliqué du tout. Ou la mesure des œdèmes, enfin, ou la mesure du poids, la prise du poids. Voilà, ça c'est donc le premier module de ce troisième atelier. Et on termine nos ateliers par un module sur le médicament. La plupart des patients ne savent pas trop à quoi servent les médicaments. Parfois, les effets secondaires, ils ne les connaissent pas non plus. Donc, on insiste là-dessus. Ça clôture donc nos ateliers. On se revoit pour une consultation de suivi 2 à 3 mois plus tard, qui est un temps là aussi individuel, où on va reprendre les objectifs qui avaient été fixés précédemment entre le patient et le soignant éducateur. Voilà.
D'accord, merci. Donc nous avons aussi sur le territoire un programme qui est préparation à la perte de poids, qui va avoir la même démarche, donc avec un diagnostic éducatif, avec effectivement, comme l'a dit Aziza, un deuxième entretien individuel qui est basé sur l'entretien motivationnel, et puis ensuite 5 ou 6 ateliers alternés avec le vécu de la maladie, et puis de l'activité physique, de la sophro, de l'activité physique adaptée et différents ateliers. Et qui se termine aussi par un bilan qui permettra ensuite de rédiger avec toutes les notes prises sur les différents ateliers, un compte-rendu qui sera envoyé au médecin. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Dans la liste que je vous ai donnée jusqu'à maintenant, ce sont les programmes qui sont proposés donc, sur le territoire, des programmes de ville. Les patients ont aussi à disposition des programmes en hospitalier. Vous avez donc à l'aréole un programme sur la nutrition qui s'adresse aux seniors. Il y a un programme à Langon, au centre hospitalier, qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en prise en charge chimiothérapie. Il y a un programme aussi au centre hospitalier de Bazias qui est ouvert aux personnes du territoire sur la prévention des chutes des seniors. Et il y a des maisons de santé qui travaillent pour mettre en place des programmes à aujourd'hui, donc pour développer ces pratiques sur le territoire. Une chose que l'on n'a pas dit, un point que l'on n'a pas abordé, quand on participe à ces ateliers, qu'est-ce que ça coûte aux patients ?
Les ateliers sont gratuits. C'est très important de le souligner. Ils sont tout à fait gratuits. On essaie de les faire à proximité du lieu de vie des patients. Hein. La proximité géographique est très importante. Mais ils ne coûtent absolument rien aux patients. C'est un élément essentiel.
D'accord. Alors, moi, je rebondirais, ils ne coûtent rien aux patients, mais ça a quand même un coût, ces ateliers. Voilà. C'est-à-dire que les structures qui les portent, ça coûte quand même. Il y a une rémunération des éducateurs, etc. Donc, effectivement, le patient peut en bénéficier. C'est une prestation qui, pour lui, ne coûte rien, mais ça a quand même un coût aujourd'hui. Et je crois que ce n'est pas négligeable de préciser ça. On a listé, je pense que j'ai abordé tous vos programmes. Voilà, sur le territoire. Une question qui est intéressante, c'est de se poser peut-être la question, qu'est-ce qui ferait qu'un patient va s'inscrire dans un tel programme? Et là, je me tourne vers Aziza, puisque à aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la communication, vous n'aviez pas rencontré beaucoup d'informations.
Non, du tout. En fait, il y avait juste une plaquette à la maison de santé et une affiche. Mais voilà, il n'y a pas de description détaillée, on ne sait pas trop ce que ça va être. On sait juste que ça va nous permettre de prendre en charge sa maladie. Je me suis renseignée à l'accueil de la maison de santé qui n'avait pas beaucoup plus d'informations non plus, mon médecin traitant non plus. C'est pas évident d'avoir des informations sur le programme, sur le détail du programme. Et c'est un peu le coup de poker, j'ai envie de dire. Et je pense que plus de communication, ce serait pas mal en fait, parce qu'on hésite pendant un moment. Moi personnellement, entre le moment où j'ai vu l'affiche et le moment où j'ai fait la démarche vers mon médecin traitant, j'ai laissé passer presque un an avant de prendre la décision de me dire bon, je vais quand même tenter le coup. Et...
D'accord. Pour autant, si je me tourne vers les deux effecteurs présents, sur les plaquettes, il y a aussi les numéros de téléphone. Ça veut dire que si sur vos plaquettes aussi, ça veut dire que si demain un patient appelle sur les coordonnées de ces plaquettes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure d'expliquer ce que c'est les programmes, etc.?
Oui, bien sûr. Après, la maison du diabète et de la nutrition a des plaquettes avec le programme détaillé. D'accord. À la maison de santé de la Réole, par exemple, avec le numéro si jamais la personne a d'autres questions, si ça ne suffit pas. Donc c'est le 05 56 92 34 83. Et vous tombez sur Sarah Marsan, qui est la coordinatrice.
Voilà. Est-ce que vous pouvez redonner le numéro de téléphone?
Ah, pardon. Le 05 56 92 34 83. Donc, ça permet de tomber sur Sarah Marsan, qui est la coordinatrice du programme Diabète, et de répondre à toutes vos questions.
D'accord. Pour vous aussi, vous avez un numéro à communiquer, le docteur Duteil, pour la MSA?
Oui, bien sûr, on est exactement dans la même organisation, avec des plaquettes qui reprennent bien sûr les différents ateliers du programme pour expliquer tout ça. On a deux numéros de téléphone, un premier qui est celui de Madame Isabelle Moreau, qui est donc le 05 56 01 83 19, 05 56 01 83 19. Je vais donner également le mien, puisque je participe activement à tout ça. Donc Philippe Duteil au 05 56 01 83 22. 05 56 01 83 22.
Et de nouveau une petite pause musicale et on se retrouve ensuite.
Malgré tout voyager, des retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Malgré tous nos secrets, resteront bien gardés. La douceur, la beauté, nos atomes accrochés.
je représente donc sur le territoire sud-Gironde le dispositif d'appui et de coordination en ETP qui, dans ses premières missions, a permis d'amener sur le territoire des programmes d'éducation thérapeutique tels que la Maison du Diabète, la MSA, Proxy Santé. Nos missions sur le territoire en tant que dispositif d'appui et de coordination, c'est vraiment de participer au développement d'une ETP de qualité et aussi de proximité. Donc nous allons essayer d'œuvrer au maximum pour que, alors à moyen ou à court terme, mais à court terme c'est peut-être un peu plus difficile, de développer, de proposer ces ateliers sur le territoire. Toutes les personnes qui sont intéressées par l'éducation thérapeutique et qui souhaitent avoir des renseignements peuvent contacter ce dispositif au 06 79 03 86 11 06 79 03. 3, 86, 11. Que ce soit des patients, que ce soit l'entourage de la famille, que ce soit des professionnels, ce numéro reste à disposition pour pouvoir vous renseigner et vous diriger vers les programmes qui sont adaptés. Ce que je propose aux personnes qui ont participé à cette émission, c'est peut-être de définir avec un mot ou deux ce que c'est l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qui représente pour vous l'éducation thérapeutique en un ou deux mots ?
Je dirais un chemin dans la forêt. On s'y lance, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on va arriver, ou vers qu'on va déboucher. Et on a souvent des bonnes surprises. On arrive dans une clairière, l'horizon se dégage. Et c'est un peu ça l'éducation thérapeutique. C'est des patients qui, au début, ne voient pas trop dans quoi ils se lancent. Et puis, c'est la plupart du temps des très bonnes surprises, avec même des fois des patients qui nous disent après « Mais je voudrais que ça continue, est-ce qu'on ne peut pas se revoir dans le groupe ?» et qui essayent de continuer à faire vivre le groupe. Et donc, c'est souvent des très belles rencontres. Et donc, ce chemin dans la forêt, ça me semble être une image qui me parle.
D'accord. Ça, c'est un ou deux mots. Du coup, je mets les autres en difficulté. Mais je trouve que c'est une belle image. Qui se lance sur qu'est-ce qui représente pour vous l'éducation thérapeutique ou le chemin, effectivement
Nous dirons un apprentissage adapté. Adapté à chacun.
D'accord.
Moi, je dirais un soutien et un tremplin.
D'accord. Et moi, je dirais l'adaptation, je dirais la souplesse et je dirais la liberté de pouvoir se prendre en charge à son rythme tout simplement, sans objectif défini au bout, mais juste aller plus loin et aller voir ce qu'il y a effectivement derrière la clairière. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie Francis de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et je souhaite une belle journée à tous nos auditeurs.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.